3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.
Nous aurions un bateau ? Mais un beau bateau alors, j'espère. Bonjour tout le monde.
Bonjour à nos auditrices et à nos auditeurs.
Tout
et
à fait.
En particulier aujourd'hui à mes petites filles.
Ah, et bien les petites filles, on leur dit bonjour alors. Ouais. J'espère qu'elles sont sages.
Voilà, vous allez donc suivre
à
notre compagnie la suite de l'histoire de Howard Blackburn, le mutilé de l'océan, hein, Jean-Marie. Oh,
c'est ça, le mutilé de l'océan, c'est ça, tout à fait Michel, tout à fait. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà résumer pour les gens qui n'avaient pas la chance d'avoir entendu, les auditeurs qui n'avaient pas la chance d'avoir entendu le premier, la saison 1. Et bien, maintenant, c'est la saison 2. Donc, la suite, elle est un peu courte parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu d'informations pour continuer ça. Mais bon, Blackburn, c'était quelqu'un tellement de modeste, qui ne cherchait pas à faire parler de lui, mais pourtant, un gars exceptionnel. Alors nous allons vous résumer le premier épisode, on va faire pour le mieux, hein, parce que c'était quand même épais le premier, hein, dramatique, et puis c'était tout à fait inhumain, ou peut-être même trop humain d'ailleurs. Vous pourrez en juger.
Pour ceux qui ont écouté les deux.
Bien sûr, pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui n'ont pas écouté, on le dit. Alors Howard Blackburn, c'est un marin pêcheur de la Nouvelle-Écosse, c'est au Canada. On est là maintenant en 1883, et puis Howard Blackburn, il a 24 ans. Alors étant en pêche à la morue avec un doris. Alors un doris, c'est une petite barque pointue des deux bouts avec le fond plat, donc assez instable. Avec son coéquipier, Tom, un marin qui est nettement plus âgé que lui, qui a la quarantaine ou dépassé la quarantaine, ils sont surpris par le mauvais temps. Alors il faut savoir qu'autour de la goélette qui a mené les pêcheurs, eh bien, il y avait plein de doris qui se mettaient jusqu'à 1,5 km, 2 km, et qui pêchaient, et qui, une fois la mèche terminée, ramenaient les morues sur la goélette. Voilà. La brume, il y a la nuit qui vient, le vent qui se met de la partie et surtout un grand froid. Et évidemment, avec leur doris, ils s'égarent en mer. Tom, son coéquipier, eh bien, il décède, il meurt au bout de 2 jours. Il fait trop froid, il ne supporte plus, c'est affreux, ils n'ont plus rien à manger, etc.
Ouais, il meurt gelé.
Il meurt gelé, il meurt de froid, voilà. Howard, lui, il arrive à survivre pendant plus de 6 jours sur ce petit esquif, sur cette petite barque qui doit faire 4,50 m, 5 mètres à tout casser, quoi, dans des conditions qu'on ne peut même pas imaginer. Il faut avoir un instinct, une puissance hors du commun pour rester en vie dans des conditions aussi rudes pendant 6 jours. Ça a dû lui paraître une éternité. Alors, il finit par toucher la côte de Terre-Neuve. Donc, Terre-Neuve, c'est les îles qui sont à côté, hein, vers ces bancs-là où on pêche. Totalement, il est épuisé, à bout de résistance, comme dans un terrible cauchemar. Tous ses doigts sont totalement gelés, ainsi que les orteils de son pied gauche. Il faut dire qu'il avait enlevé sa chaussette du pied gauche pour envelopper sa main, mais après il a perdu la chaussette, donc les pieds gauches à geler. Il n'a pas dormi, il n'a pas mangé. On est en février, on est dans l'Atlantique Nord. Une région évidemment très froide et terrible. Finalement, dans un effort surhumain, il parvient à remonter une petite rivière et des pêcheurs, notamment le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, Nick je crois, le trouve, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, le trouve plus que presque moribond, donc presque mort, et tente ce qu'ils peuvent, évidemment, pour le ranimer.
Donc, ouais, c'est ces pauvres gens qui le trouvent, des pêcheurs démunis autant que l'on peut l'être, dans un hameau du bout du monde, s'interrogent, mais que faire pour sauver ce malheureux qui, maintenant inconscient, et qui est dans une sorte de coma. Parce que bon, ils n'ont pas beaucoup de moyens, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infirmerie,
effectivement. Il n'y a rien du tout, il n'y a que des cabanes de pêcheurs.
Voilà. Donc ils parlent entre eux à voix basse pour se demander ce qu'ils vont faire. Mais pour eux qui sont habitués à crier dans le vent, la voix basse, c'est largement suffisant pour que Howard les entende. Donc ils parlent un peu comme moi, ils ne savent pas parler doucement.
Ou comme moi.
Donc à demi inconscient, Howard à demi inconscient va marmonner. Non, camarade, pas question d'aller à Saint-John avec ton canot. Suffit de moi, hein. Ne pas faire encore des orphelins. Hein.
Ouais.
Et il se rendort, aussi abruti de fatigue et de privation, complètement à bout de force.
Ouais, ouais.
Martha, la femme d'un pêcheur,
qu'il a recueilli dans cette maison, oui.
Remarque qu'en dormant, ses lèvres remuent drôlement et son instinct de femme, de mère même, on peut dire,
oui,
lui dit de suite ce qu'il faut faire. Comme il est à moitié endormi, ils ne savent pas comment le nourrir, etc.
Lui donner des forces.
Eh bien, elle va prendre le biberon de son bébé qui dort sur la paillasse à côté. Et Howard se met à téter comme un nourrisson, avec sa grosse face cuite comme une brique par les embruns, et le froid plus que glacial, le soleil, la mer, etc. Voilà, on s'imagine un gaillard comme ça téter le biberon.
Ah ouais.
Et en plus, avec une barbe touffue, quoi.
Mais oui, mais
ça doit donner une drôle de scène, ça doit faire une drôle de scène.
Ça, c'est sûr.
Pendant 2 jours, Howard va dormir et donc se nourrir du lait du biberon.
Et évidemment, enfin, il est au chaud dans cette cabane. Alors, et puis viennent des moments de cauchemar où il se met à hurler, il se met à crier « On va chavirer, Tom !» Il se croit encore sur la barque avec les vagues et tout qui les assaillaient et qui remplissaient la barque. Le vieux Charles, le doyen du hameau en question des pêcheurs, soulève le drap et puis regarde les mains de Ward qui sont gris vert et ses doigts qui enflent. Il a été, lui, dans le Labrador, ce vieux marin, et il a déjà vu ça. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Père Charles ? On lui demande. Ils vont traiter le mal comme ils peuvent. Baigner les mains dans de l'eau très chaude, faire tomber les doigts morts, puisqu'ils sont secs, ils sont morts, et tremper le reste du moignon, de ce qui reste des doigts, dans du rhum.
Ouais, c'est assez affreux tout ça.
Ils ont du rhum. Eh bien, ils n'ont pas autre chose. Howard, qui s'est réveillé, il approuve. Et il dit, oui, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y, grand-père. Et puis pour lui, une très grosse lampée de rhum. Hein, quand même, ça va le réchauffer. Ces pansements, ce sont des linges, de simples linges, qui sont trempés dans du rhum.
Hey, ils n'ont pas de désinfectant.
C'est le rhum, ça désinfecte.
Voilà.
Charles, qui est resté une fois 5 jours, lui, Charles, ce vieux pêcheur, qui est resté 5 jours sans manger, sait qu'il faudra le nourrir petit à petit, doucement. Quand Howard s'aperçoit que ses hôtes dorment par terre, quand il reprend un peu conscience, ben, il s'aperçoit que ses hôtes lui ont laissé le lit. Et pour lui laisser la seule paillasse qui est disponible dans la cabane, eh bien, il faut le forcer à y rester. Il veut quitter le lit pour donner le lit à ces gens. Howard est devenu l'ami de Nick, le petit garçon qui, le premier, l'a aperçu sur la rivière, quand il remontait la rivière, à demi inconscient. Il lui raconte son histoire, au petit donc, sans faire dans le détail, parce que Howard, ce n'est pas quelqu'un qui fait des poèmes et des fioritures. Pour Howard, ce sont les risques du métier. Et lui, il a eu plus de chance que le vieux Tom, et puis c'est tout. Et puis, les jours passent, les plaies petit à petit cicatrisent. Frank lui a fabriqué des moufles adaptées, bien serrées au poignet. Alors, il décide d'aller à la pêche avec ses pêcheurs qui l'ont recueilli. Le printemps est arrivé, et ça, c'est la plus belle des saisons à Terre-Neuve. Oula, il n'y a pas de grosses vagues sur la plage.
Ouais.
Oh là là,
c'est vrai. C'est le printemps, la mer est pas
C'est
forte.
Ce qu'on appelle un petit friselis.
Ouais.
Friselis.
Donc, on imagine le drame de ce jeune homme vigoureux, parce qu'il faut répéter qu'il n'a que 24 ans,
hein, et oui.
Qui se voit réduit à la charge de ces 6 pauvres pêcheurs. Il essaie de faire quelque chose, de se rendre utile, et c'est dramatique cet apprentissage. Parce qu'évidemment, il a les mains très abîmées. Ses hôtes s'en rendent bien sûr compte, mais ces gens sont si rustiques, sont aussi des gens simples de discrétion, pleins d'une vraie humanité, et ils font comme s'ils ne voyaient rien. Et puis un jour, Frank dit « Dis donc, Howard, on va sortir en mer, à la chaloupe à la voile. Tu veux bien venir tenir la barre ?» On imagine la joie de Howard se rendre utile. Il n'y a vraiment rien qui puisse lui faire autant plaisir. Ce qu'il a mis un jour et une nuit de souffrance et de délire dans la Little River quand il est pour la remonter, hein, contre le courant, évidemment,
et
ben ils vont le parcourir avec donc la chaloupe à la voile en moins de 2 heures.
Ouais.
Et les voilà déjà en mer. Donc Howard va revoir le rocher qu'il avait aperçu avant de toucher terre, hein. À l'époque, il était tout blanc. Et ben là, il est tout vert, recouvert évidemment de végétation.
Et oui, c'est le printemps maintenant.
Voilà.
C'est le printemps.
Bientôt, ils aperçoivent une mâture, une goélette. Mais son hunier est plus petit que celui de la grâce de la goélette sur laquelle il était embarqué. Peut-être il s'était dit, ah ben c'est peut-être elle qui revient sur les lieux où on nous a perdus. Mais ce n'était pas elle. Et tout autour de cette goélette, évidemment, il y a les doris de pêche, hein,
oui.
Pêche à la morue. Donc, la chaloupe s'approche de l'un des doris et les deux gars font des signes d'amitié. Et puis, soudain, l'un d'eux qui est dans un Doris, lève les bras et gueule à plein poumon « C'est Howard ! C'est Howard !» Et ce sont les gars de Gloucester, le port d'attache de la Goélette, où était embarqué Howard, qui l'ont reconnu, évidemment.
Ils l'ont reconnu parce que, évidemment, tout le monde croyait qu'il était perdu, qu'il était mort en mer. Alors, on va la faire courte. Ces gens sont avant tout des durs, mais avec un cœur gros comme ça. Alors, que faire ? Il va falloir laisser ces gens de Little River, donc la cabane des clubs, comme des pêcheurs, qui sont en quelque sorte devenus sa famille, et puis le petit Nick, son copain, celui qu'il a trouvé, qu'il était moribond quand il l'a trouvé. Mais il lui faut bien revenir chez lui à Gloucester, évidemment, c'est sa ville, c'est sa famille. Bon. J'aurais pas voulu partir sans remercier vous tous, Martha, le vieux Charles et puis tous les autres. Mais Franck comprend tout ça, et dans la barque, et dans la chaloupe, donc, il lui dit « T'en fais pas, Howard, des gars comme toi, on peut pas les oublier ». Des gars comme lui n'ont pas besoin de dire merci. Howard va donc bien revenir à Gloucester. Le 4 juin 1983, la Goélette laisse tomber son ancre dans ces eaux qui sont si bien connues de Howard. Le temps est magnifique et il fait presque chaud. Dans cette région, quand même, presque chaud, c'est pas rien. Mais Howard ne peut pas faire grand-chose. La grâce n'est pas là, mais le capitaine Griffin, c'était le capitaine de la grâce, donc, lui a laissé sa part. Bien qu'il croyait qu'il était perdu, eh bien, comme quoi ces gens, ils étaient d'une honnêteté scrupuleuse, ce qui maintenant dans notre monde s'est bien perdu, lui a laissé sa part au bureau du port, au cas où il reviendrait de sa campagne de pêche, même si elle est réduite cette part, puisqu'il n'avait pas fini la campagne de pêche.
Voilà. Donc, avant de quitter le bord, Howard va saluer le capitaine Salmon, celui qui l'a recueilli.
Qui l'a ramené.
« Mais où tu vas ?» le capitaine lui dit. « Ben, je débarque. Et pour aller où ?» Ben, Howard fait un signe vague. « Écoute, les capitaines des Yankees ne sont pas des sauvages. Va faire ton rapport au bureau du port, et puis tu reviens dormir à bord. » Et d'un geste sec et mine de rien, il lui colle une pièce de $5 dans le moufle. « T'occupe pas, Howard. Demain, il fera jour. » Howard tourne les talons. Le capitaine le rappelle. « Hé, Howard, sois ce soir au bar. » Au bar Le Cheval Marin, dans Main Street. Tu sais où c'est ? Sois-y à 6 heures. Au bar Howard acquiesce, puis il va au bureau du port. Et là, ce sont des inévitables interrogatoires. On a déjà vu des coéquipiers se battre sur un Doris et un des deux qui finit au bouillon et qui y reste.
C'est-à-dire que... Dans des eaux à 5 ou 6 degrés.
Voilà, donc il soupçonnait peut-être Howard de s'être battu avec son équipier et de l'avoir mis à l'eau, évidemment. Parce que, bon, tous les gens sont un peu susceptibles. Et comme on l'avait déjà vu, ils se méfiaient. Donc tout un tas de gens après vont aussi l'interroger et ça dure. 10 fois, il va raconter son terrible drame devant plus de 30 bonhommes. Enfin, on le libère et on lui donne son dû aussi, évidemment, ce que le capitaine avait laissé pour lui, de la grâce. Et là, il est presque temps d'aller au rendez-vous que lui a fait fixer le capitaine Salmon, donc à l'auberge du Cheval Marin. Donc, vous êtes sur Radio Albigès, dans l'émission Dessinez-moi un bateau.
Tout à fait, je confirme.
Avec...
Moi, je suis Jean-Marie.
Et moi, je suis Michel.
Tout à fait, je confirme, on ne s'est pas trompé, c'est bien ça. Vous avez Radio Albigès sur 95.4 et
104.2.
Tout à fait, je confirme aussi.
Et pas 1042, ou je ne sais plus comment j'avais dit l'autre
jour. Non, 3024. Et nous vous racontons l'histoire de Howard Blackburn dans l'émission Dessine-moi un bateau, bien sûr. Howard Blackburn, un dur plus que dur, et avec un cœur énorme. Et donc, une histoire assez terrible. Alors, lorsqu'il arrive à la taverne, c'est plein de monde. On n'a jamais vu autant de monde dans ce bistrot à marin, avec un chahut pas possible. Comment faire là-dedans pour trouver le Captain Salmon ? Donc, le Captain Salmon, c'est celui de la Goélette qu'il a ramené chez lui depuis Terre-Neuve.
Tout à fait, Thierry.
Mais aussitôt, je m'appelle Jean-Marie, moi. Mais aussitôt, c'est Salmon qui l'a vu. Il se lève et vient vers lui. Et là, aussitôt, un grand silence se fait dans le bar. Et soudain, un type qui gueule pour Blackburn. Hip, hip, hip. Ah, moi, je m'attendais à ce que tu dises hurrah, moi.
Non.
Ah ben tu vois, c'est Paul qui a dit hurrah derrière la vitre, mais on n'a pas entendu.
Ah bon?
Ouais. Alors, et c'est un hurrah à tout déglinguer qui surgit de tous les gosiers. Tu parles, évidemment, personne ne s'attendait à le voir là. Howard, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il regarde ses pieds, dans l'un et nu, comme c'est alors le cas des marins. La plupart du temps, ils se baladent pieds nus. Hein. Surtout en cette saison, d'ailleurs, évidemment pas en hiver. Et l'autre, il est emmailloté dans des chiffons puisqu'il a perdu les orteils de son pied gauche. Et puis voilà les galonnés qui arrivent. Obligé de rester debout contre le mur tellement c'est plein de monde, hein, parce que tu comprends que c'était exceptionnel ce qui se passait là, c'est évident. Hein.
Ouais, puis le bruit avait vite couru, parce que c'est qu'un petite ville. Donc,
ah, mais à cette époque, il n'y avait pas besoin de l'Internet.
Tout le monde était venu voir le rescapé.
Ah ben, tu parles, etc. Et Salmon qui réclame le silence, « Silence tout le monde !» et se met à raconter. Il se met à raconter comment ils ont retrouvé Howard. Howard se dit qu'il n'a fait que sauver sa peau, ce que n'importe qui aurait fait, d'après lui. Hein. C'est normal.
Bon, on ne va pas s'étendre, puisque vous connaissez déjà l'histoire.
Non, et puis il n'y a pas de canapé, on ne peut pas s'étendre ici.
C'est pas le...
Ouais.
Et justement, on va dire, il se trouve que la taverne est à vendre.
Ah.
Alors, Salmon, le capitaine donc, du bateau qui l'a recueilli, indique qu'on doit offrir le bistrot à Howard.
Je dirais même qu'on doit.
Oui, qu'on doit.
Qu'on doit,
ouais. Et qui, bien sûr, ne pourra plus repartir à la pêche vu ses mains et ses pieds abîmés.
Ça va être difficile. Ouais.
Donc, il lance les enchères et un représentant du Gloucester Herald, un journal du coin, hein, ouais, est là et qui indique que s'il manque de l'argent, son journal fera le complément.
Ah oui.
Et celui du Gloucester News, un autre journal, ne veut pas être en reste et il en rajoute. Et ils sont presque à se battre finalement et décident d'ouvrir ensemble une souscription.
D'accord.
Voilà. Évidemment, la bière va couler à flot, hein, et ça chante, et ça gueule dans tous les coins, et même en oubliant finalement et tout bonnement Blackburn. Hein.
Oui, ça c'est normal. Oui. Ouais.
Howard va rentrer se coucher avec Salmon, qui l'aide à marcher parce que bon, il a bu un petit coup.
Oui, hein, plus qu'un coup, d'ailleurs.
Avec un gros mal au crâne, évidemment, et en pleurant comme un gosse et avec ses poches pleine de billets de banque.
Et parce que tout le monde a mis la main à la poche. Hein.
Ouais. Trois jours plus tard, et par devant un notaire, il était tavernier, propriétaire de l'auberge du Cheval Marin.
C'est presque un conte d'Émile et une nuit. Hein.
Ouais.
Ce bistrot n'était pas une super affaire, mais avec Howard, la fréquentation augmenta, y compris les élégants et les élégantes, évidemment, avides de sensations fortes, qui voulaient voir cette bête curieuse. Alors, Howard, c'est un marin peu bavard, et s'évertuant à rester aimable. Il se contentait de répondre poliment oui ou non, ou bien bah. Et puis il passait à autre chose. C'est pas lui qui va te faire des romans. Ce type de clientèle, volage et volatile, je parle des élégants et des élégantes évidemment, ouais, un gars de la trempe de Howard n'en a rien à faire. Le beau monde n'a que peu de rapport avec les marins, et les vrais clients, solides, c'était plutôt les vrais, les longs courriers, et puis les pêcheurs, qui jetait l'ancre dans sa rade. Il était heureux, Howard, enfin matériellement, et puis toujours dans le monde des marins, puisqu'il était toujours en contact avec des marins, mais bien sûr, plus marin lui-même, ouais, par la force des choses. Et puis, il ne pouvait pas échapper aux vannes lourdes, du genre « Tu vas engraisser, Howard, derrière ton comptoir !» Il le taquinait, tous ses potes et les marins. Howard était jeune et en pleine forme, solide. Il avait tout réappris et adapté tous ses gestes. Il faisait tout le boulot dans le bar, et ça, avec juste la première phalange de ses pouces, c'est juste la première phalange de ses pouces qui avait échappé au gel.
Ouais, c'est dire. Et puis un jour, certains marins qui rentraient de mer, après un an ou deux de bourlingue, trouva sa place, à la place de Howard, donc, un gérant bedonnant, un retraité de la marine, évidemment. Tous étonnés, ces bourlingueurs apprennent béat que Howard était parti, ben, tout bonnement, chercher de l'or.
Ah bon?
Ouais, il faut dire que c'était l'époque de la fameuse ruée, ouais, vers l'or.
Ouais.
Hein, et ça venait tout juste de commencer.
Ouais.
Et un tel autre revenait et roulait carrosse, quoi. C'est-à-dire, bon, il revenait riche.
Et oui.
Ou bien, pour se payer un carrosse, il fallait être riche à l'époque.
Ah, oui.
Ou bien aussi, ils envoyaient des chèques fabuleux à leur famille.
Ah, ils avaient trouvé des...
Donc, les rumeurs les plus incroyables circulaient. Donc pas mal de bobards d'ailleurs, comme on l'imagine, hein, un peu comme les fake news du net aujourd'hui.
Eh oui, c'était les fake news de l'époque, mais c'était du bouche à oreille.
Ouais.
Mais sinon, c'est du bouche à PC ou à micro. À ce moment de l'histoire de l'Ouest, donc c'était ce qu'on appelle le Klondike, et sa montagne d'or. Sa montagne d'or pour ceux qui ont trouvé. Hein. Avec des fourmis dans les jambes, voilà notre Ward qui fait son baluchon et qui l'embarque sur la goélette Pimprenelle. Ça, ça ne s'invente pas, hein, Pimprenelle. Qui va lui éviter de traverser le continent américain. Alors, la traversée du continent américain, c'est 5000 km dans des convois de chariots bâchés vers l'ouest, comme on a pu le voir dans les westerns. Hein. C'est pas pour un Howard Blackburn, qui est un marin. Pour lui, ça vaut mieux par la route des marins. Et là, ça fait quand même 12 000 vers le sud, ouais. Et ensuite 14 000 vers le nord.
1000 marins, évidemment. Voilà.
Oui, des 1000 nautiques, hein, 1852 mètres. Hein, oui. 12 000, 1000 et 14 000, 1000. Donc 28 000, 1000 marins. Alors je vous laisse juste de cette logique, mais si vous n'êtes pas marin, c'est même pas la peine de vous le demander. Ah, on sent le gréement qui grince. Hein.
Là, ils sont en mer. Hein.
Il faut mettre un peu de suivre, un peu de suivre dans les poulies, matelots.
Ils sont partis vers l'Alaska. Là,
c'est... Ouais. Et oui, parce que le Klondike, c'est l'Alaska. Hein.
Alors, c'est comme second que Howard embarque sur la goélette. Le capitaine Tommy Walter, qui a à peine 35 ans, et déjà 4 tours du monde à son actif. Walter connaissait Howard, et même un peu plus, puisqu'ils étaient amis. Alors, donc, c'est pour ça qu'il a embarqué comme second à bord de son bateau, hein, Howard. Alors, il va tout lui enseigner sur la navigation, c'est-à-dire la route à suivre, comment la tracer sur une carte, le maniement du sextant, le calcul de la longitude et de la latitude. Et puis, surprise pour Howard de trouver sur la Pimprenelle, devinez qui ?
Devinez qui ?
Quelqu'un qui ne pourra jamais oublier.
Ah, devinez qui ?
Tu nous le donnes à mille, Jean-Marie ?
Je vous le donne Émile. Émile. Michel.
Ouais.
Alors, qui ?
Eh bien, c'est à toi que je le demande.
Ah. Ah, je suppose que c'est le petit garçon qui l'avait sauvé sur la rivière.
Tout à fait. C'est le petit Nick qui, en quelque sorte, lui avait sauvé la vie en l'apercevant presque mourant sur la Little River.
Aïe, 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 aïe. 10 ans ont passé. Et Nick a maintenant 16 ans. Donc, il avait 6 ans à l'époque. Hein.
Ouais.
Eh bien, 10 ans après, il le retrouve sur cette goélette. Franck, son père, lui annonce le petit, s'est perdu en mer avec 2 autres pêcheurs. Et Martha, sa maman, est dans une misère noire avec sa petite sœur, qui évidemment, elle, avait même pas 1 an et maintenant a 11 ans. C'était le bébé du fameux biberon, dont on a parlé tout à l'heure. Alors maintenant, c'est Nick qui fait vivre la famille. Hein, comme Mousse, il est embarqué, il a 16 ans, il est presque un matelot novice, comme on disait. Hein. Alors, comment Howard reconnut Nick ? Eh bien ça... On vous le racontera une autre fois, parce que pour le coup, c'est Howard qui va sauver la vie de son jeune pote.
Voilà. Donc pour le reste de la traversée, on pourra aussi la raconter une autre fois. Et c'est ensuite l'arrivée à San Francisco. Voilà. Là, on vend la goélette et on fonce, parce que tout le monde allait à la ruée vers l'or. Hein,
tout le monde allait là.
Avec les moyens de l'époque, donc vers l'ouest, on fonce vers l'ouest et vers le nord. Et cap vers le fabuleux Klondike, ou Klondike comme...
Klondike, ouais.
Ouais. C'est-à-dire cap vers l'Alaska.
Et ouais.
On ne peut pas tout dire sur Howard, cet homme, c'est une légende. Rien à voir avec les Supermen de pacotille, papier mâché du numérique qui s'envole au moins au courant d'air. Hein.
Ouais. Ça, c'est sûr, ouais. Ils sont virtuels alors, c'est sûr.
Lui, c'est un type solide,
ah ouais.
mais il ne va pas faire vraiment fortune au Klondike. Juste ramener quelques pépites. Et puis, il va surtout revenir sain et sauf à Gloucester, ce qui est déjà pas mal.
Ouais.
Mais il ne va pas s'ancrer derrière le comptoir du cheval marin. Non, ne croyez pas ça.
Et non, il ne pouvait pas, c'est pas possible. Mais là, il devait avoir, alors, 10 ans après, le petit Nick, donc 24 ans, 34 ans, 35 ans. Il a dû rester 2-3 ans au Klondike. Il devait avoir 36 ou 37 ans quand même, pas loin de 40 ans. Eh bien non, ce bougre va construire, tiens-toi bien, tiens bien la table.
Ouais.
Ce bougre va construire lui-même, avec ses mains qui lui restent plus de doigts, un sloop, un petit sloop, hein, qui est un petit bateau avec 2 voiles, hein,
ouais.
De 9 mètres.
Ça, c'est assez extraordinaire quand même.
Il va le construire lui-même, un petit sloop de 9 mètres, qui va appeler la Grande République, le Great Republic, la Grande République, avec lequel il va tout simplement traverser l'Atlantique Nord, d'abord d'ouest en est, en allant vers l'Europe, et puis ensuite, tranquillement, il va revenir d'est en ouest, Et bien entendu, il va faire ça en solitaire.
Ouais, chapeau.
Je vous laisse le soin de juger de l'exploit. De nos jours, on appelle héros des gens qui font le tour du monde sur des machines avec routeur à terre, internet et un matos de haute technologie truffé d'électronique. Bon, libre à chacun de voir ça comme il veut. Hein. Howard était encore en vie, lorsque Alain Gerbeau a traversé...
Dont on a parlé ici lors d'une émission.
On a fait deux émissions sur Alain Gerbeau. Hein, a traversé l'Atlantique et il avait mis Alain Gerbeau 100 jours. Et lorsqu'il a appris la chose, Howard a levé les sourcils, des sourcils aussi broussailleux qu'étonnés, et puis il a lâché. Mais qu'est-ce qui a pu le retenir pendant tout ce temps ? Dans l'Atlantique, il n'a pas pu faire d'escale. Il s'est demandé, mais c'est pas possible, il a dû regarder les vitrines des magasins, non ? Le bateau de Gerbeau, il faisait 12 mètres. Et c'était un bateau qui était taillé pour la course. Ce n'était pas les 9 mètres de Blackburn, la barcasse, hein ?
Ouais.
Alors, on va dire, autre gens, eh bien, autre monde, parce que Gerbeau, c'était pas du tout la même société que Blackburn.
Ouais, mais c'est à croire que Blackburn pensait que lui, il avait mis moins de temps que ça, et que l'autre, il traînait en mer.
Blackburn, il n'avait pas mis son jour pour traverser l'Atlantique, ça c'est sûr. C'est ouais. Pour ça qu'il disait, mais qu'est-ce qu'il a mis pour traîner autant de temps ? Eh bien, écoutez, on espère en tout cas qu'on vous a intéressé, que vous avez gardé présent à l'esprit là, l'exploit de cet homme hors du commun, Howard Blackburn. Voilà. Et peut-être qu'on pourra vous raconter d'autres histoires aussi étonnantes, c'est-à-dire qu'on vous en a déjà raconté pas mal. Hein. Voilà. Et on vous souhaite un bon après-midi à tout le monde, et à bientôt.
Au revoir à tous.
Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau pour les vacances, nous avions un bateau.